Chapitre 4. Chaos de Connemara. Le submersible de Manmut, le Mort-avec d'Europe, comptait sur le Kraken une avance de 3 km qui ne cessait de croître, et cela aurait dû donner de l'assurance au petit être mi-robot, mi-organique, mais comme les tentacules d'un Kraken atteignaient parfois les 5 km, il demeurait inquiet. Pire, cela le déconcentrait. Manmut, qui avait presque achevé sa nouvelle analyse du sonnet 116, était impatient de la transmettre à Orfu Dio, et le moment était vraiment mal choisi pour se faire avaler par un kraken. Il vérifia la position de celui-ci, constatant que la gigantesque masse de gelée affamée le poursuivait toujours, propulsée par son flagelle, et il accéda à l'interface du réacteur afin d'augmenter de 3 nœuds la vitesse de son bâtiment. Le Kraken, qui se trouvait bien loin de ses profondeurs natales et bien près du chaos de Connemara et de ses fractures à ciel ouvert, accéléra l'allure. Tant qu'ils fileraient tous les deux à grande vitesse, ils seraient incapables de déployer ses tentacules pour agripper le submersible. Mais si ce dernier venait à rencontrer un obstacle, un paquet d'algues lumineuses par exemple, et ralentissait, ou pire, se trouvait piégé par des festons de gelée, alors le Kraken fondrait sur Manmut comme un « Et puis zut !» fit celui-ci, renonçant aux métaphores pour rompre le silence qui régnait dans la minuscule environniche du submersible. Ses capteurs étaient branchés sur les systèmes du navire, et la vision virtuelle venait de lui révéler d'énormes paquets d'algues lumineuses droit devant lui. Les colonies étincelantes flottaient le long des courants isothermes, se nourrissant des veines rougeâtres de sulfate de magnésium qui s'élevaient vers la banquise comme autant de radicelles rouge sang. « Plongez !» ordonna mentalement Manmut, et le submersible descendit 20 km plus bas, évitant de quelques douzaines de mètres à peine les colonies d'algues les plus profondes. Le Kraken plongea lui aussi. S'il avait été capable de sourire, il l'aurait sûrement fait. Cette profondeur était idéale pour la curer. Manmut effaça à contre-cœur le sonnet 116 de son champ visuel et passa ses options en revue. Se faire dévorer par un kraken à moins de 100 km de Connemara centrale serait fort embarrassant. C'était la faute de ces satanés bureaucrates. Ils auraient pu penser à purger leurs fonds locaux de monstres marins avant de convoquer l'un de leurs explorateurs morts avec pour une réunion. Ils pouvaient toujours tuer ce kraken. Mais il n'y avait pas un seul submersible moissonneur à 1000 km à la ronde, et le temps que l'un d'eux rapplique dans les parages, la splendide bête aurait été réduite en pièces et dévorée par les parasites hantant les algues lumineuses, les requins à sel, les vers tubulaires flottants et les autres kraken. Ce serait un horrible gaspillage. Manmut émergea de la vision virtuelle le temps de parcourir du regard son environniche, comme si un aperçu de sa réalité encombrée allait lui donner une idée. Et ce fut exactement ce qui arriva. Sur sa console, à côté des œuvres de Shakespeare reliées plein cuir et des textes de Wendler en sortie imprimante, se tenait sa lampe à lave, un cadeau farfelu que lui avait fait Hurtzweil, son vieil équipier mort avec, il y avait presque 20 années J de cela. Manmut sourit et se remit en mode virtuel sur toutes les bandes passantes. Vu la proximité de Connemara Central, il y avait sûrement des diapirs dans le coin, et les Kraken détestaient les diapirs. Oui. À 15 km au sud-sud-est, ils étaient toute une nuée qui montait vers la calotte glaciaire, aussi langoureux que les bulles de cire dans sa lampe. Manmut mit le cap sur le plus proche et augmenta sa vitesse de 5 nœuds, ce qui ne lui permettrait malheureusement pas d'être hors de portée des tentacules du Kraken. Un diapir n'était rien d'autre qu'une bulle de glace réchauffée par les évents et les zones gravitationnelles chaudes des profondeurs, montant à travers la mer salée vers la calotte qui avait jadis entièrement recouvert Europe et qui, 2000 années après l'arrivée de la compagnie des cryobots Arbeiters, la recouvrait encore à 98%. Le diapir vers lequel il se dirigeait faisait 15 km de large et montait de plus en plus vite. Les Kraken n'appréciaient guère les propriétés électrolytiques des diapirs. Ils refusaient d'en approcher leurs tentacules sondeurs, sans parler de ceux qui leur servaient à tuer. Le sub de Manmut, qui avait à présent 10 km d'avance sur son poursuivant, atteignit le globe, ralentit, morpha sa coque en position impact, rétracta ses sondes et ses capteurs et s'enfonça dans la boule de gelée. Activant le sonar et le système EPS, Manmuth positionna les lenticelles et les chenaux de navigation situés 8000 mètres au-dessus de lui. Dans quelques minutes, le diapir se fondrait dans l'épaisse calotte glaciaire, s'insinuerait dans sa substance via lenticelle et chenaux et émergerait sous la forme d'une fontaine de 100 mètres de haut. Pendant quelques instants, le secteur du chaos de Connemara ressemblerait au parc de Yellowstone de l'Amérique de l'air perdu, avec ses geysers au soufre rouge et ses sources chaudes. Puis l'écume se disperserait dans le champ gravitationnel d'Europe, égal à 1/7 de celui de la Terre, retombant telle une averse de grésil filmée au ralenti sur des kilomètres de part et d'autre de chaque lenticelle, se réfrigérant dans l'atmosphère ténue et artificielle d'Europe, 100 hectopascales, pas plus, ajoutant de nouvelles sculptures abstraites au champ glaciaire déjà torturé. Manmuth ne pouvait pas être tué au sens littéral du terme. Bien qu'en partie organique, il menait une existence plutôt qu'une vie, et il avait été conçu pour être robuste. Mais il n'avait aucune envie de passer plusieurs milliers d'années T enquisté dans une fontaine, un éclat gelé ou une sculpture abstraite. L'espace d'une minute, il oublia le Kraken et le sonnet sans cesse pour se consacrer à ses calculs. La vitesse d'ascension du diapir, la vitesse de son submersible à travers la Gadoue, la distance le séparant de la calotte glaciaire. Puis il téléchargea ses pensées dans la salle des machines et dans les ballasts. Si tout se passait bien, il émergerait du diapir côté sud 500 mètres avant l'impact avec la glace et, en donnant un coup d'accélérateur, jaillirait à la surface au moment où le raz-de-marée créé par le geyser déferlerait sur le chenal. Sa vitesse, qu'il évaluait à 100 km/h, lui permettrait alors de rester hors de portée de l'effet frigorigène. Il franchirait la moitié de la distance le séparant de Connemara Central en utilisant son submersible comme une planche de surf. Une fois le raz de marée dissipé, il lui resterait 20 km à parcourir sur la surface, mais il n'avait pas le choix. Ce serait une entrée mémorable. Sauf si le chenal était bloqué. Sauf si un autre submersible s'y déplaçait en provenance de Central. Manmuth disposerait de quelques secondes pour être mortifié, après quoi la Dame Noire et lui seraient détruits. Quoi qu'il en soit, il serait débarrassé du Kraken. Ces sales bêtes ne s'approchaient jamais à moins de 5 km de la calotte. Ayant émis tous les ordres requis et sachant qu'il avait fait tout son possible pour survivre et arriver à l'heure au rendez-vous, Manmuth revint à son analyse du sonnet. Le submersible de Manmuth, qu'il avait depuis longtemps baptisé la Dame Noire, parcourut les 20 derniers kilomètres avant Connemara Central en empruntant un chenal large de 1000 mètres à la surface d'une mer noire sous un ciel noir. Un Jupiter gibbeux se levait à l'horizon glacé, nuages étincelants et tourbillons pastels, tandis qu'une minuscule Io passait à basse altitude devant la face de l'astre géant. De part et d'autre du chenal se dressaient des falaises de glace, hautes de plusieurs centaines de mètres, d'un gris terne et d'un rouge affadi sur fond de ciel noir. Manmuth était tout excité lorsqu'il ouvrit le sonnet de Shakespeare. Sonnet 116. Je ne veux point d'obstacle à l'union suprême de deux nobles esprits. L'amour n'est pas l'amour qui change s'il rencontre un changement lui-même ou, s'il se voit quitter, veut quitter à son tour. Non. L'amour est plutôt l'inamovible marque qui regarde l'orage et brave sa fureur, ou l'étoile guidant l'aventureuse barque dont on ne sait l'effet si l'on prend sa hauteur. Il naît jouet du temps dont la faucille ronde vient ravir la rougeur au front de la beauté. Il naît touché des jours en leur brièveté. L'amour demeurera jusqu'à la fin du monde. Et si j'erre en ceci, si mon tort est prouvé, je n'ai jamais écrit, nul n'a jamais aimé. Au fil des décennies, il en était venu à haïr ce poème. C'était le genre de compliment que les humains récitaient lors des cérémonies de mariage durant l'ère perdue. Une ritournelle sentimentale, ringarde, du mauvais Shakespeare. Mais, en dénichant dans les micro-archives les œuvres critiques d'une dénommée Hélène Wendler, une lettrée ayant vécu à cette époque, au 19e, 20e ou 21e siècle, la datation était des plus floues, il avait trouvé une clé lui permettant une nouvelle interprétation. Et si, contrairement à ce qu'on avait affirmé au fil des siècles, le sonnet sans cesse n'était pas une affirmation larmoyante, mais une violente réfutation. Manmuth revint à ses notes sur les mots-clés. Il y avait une négation à chaque vers ou presque, jusqu'à l'apothéose du dernier « jamais »,« nul », qui faisait écho au « jamais, 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 jamais nihiliste » du roi Lear. Il s'agissait bel et bien d'une réfutation, mais de quoi ? Manmuth savait que le sonnet sans cesse faisait partie du cycle du jeune homme, mais il savait aussi que cette expression n'était rien de plus qu'une feuille de vigne ajoutée en des temps plus prudes. Ces poèmes d'amour n'étaient pas destinés à un homme, mais à un jeune garçon, âgé de 13 ans tout au plus. Manmuth avait consulté les critiques datant de la seconde moitié du XXe siècle et savait que les lettrés de cette époque penchaient pour une interprétation littérale. Shakespeare, affirmait-il, avait eu une relation homosexuelle. Mais il savait aussi, pour avoir lu des lettrés plus sérieux, ayant travaillé durant des périodes antérieures et postérieures, que ce genre d'interprétation à but politique inavoué était franchement puéril. Shakespeare avait imposé à ses sonnets une structure dramatique. Manmuth en était persuadé. Le jeune et la dame noire étaient les personnages d'un drame. Shakespeare avait mis des années à composer ses sonnets, une tâche qu'il n'avait pas attaquée dans le feu de la passion, mais alors qu'il était en pleine maturité. Et qu'explorait-il donc dans ses sonnets ? L'amour. Et quelle était la véritable opinion de Shakespeare sur l'amour ? Personne ne le saurait jamais. Le barde était trop malin, trop cynique, trop rusé pour dévoiler ses sentiments, Manmuth le savait. Mais dans toutes ses pièces, ou presque, Shakespeare montrait comment les sentiments les plus forts, l'amour y compris, transformaient les gens en bouffons. À l'instar de son roi Lear, Shakespeare adorait ces bouffons. Roméo était celui de la chance, Hamlet celui du destin, Macbeth celui de l'ambition, Falstaff, eh bien, Falstaff n'avait rien d'un bouffon, mais l'amour du prince Hal l'avait réduit à cette condition et son cœur s'était brisé lorsque le jeune prince l'avait abandonné. Manmuth savait que le poète des sonnets, parfois appelé Will, n'était pas le Will Shakespeare historique, contrairement à ce que prétendaient les lettrés les plus superficiels du XXe siècle, mais bien un autre personnage créé par le poète et dramaturge afin d'explorer toutes les facettes de l'amour. Et si ce poète, imitant en cela le comte Orsino, était le bouffon de l'amour? Un homme amoureux de l'amour. Manmuth était séduit par cette approche. Il savait que l'union suprême de deux nobles esprits, entre le jeune et son aîné, le poète, n'était pas une relation homosexuelle, mais un authentique sacrement des sensibilités, une facette de l'amour que l'on honorait bien avant l'époque de Shakespeare. En première approximation, le sonnet sans cesse ressemblait à une affirmation sirupeuse de cet amour et de sa permanence, mais il s'agissait bien d'une réfutation. Manmuth eut une soudaine illumination. Comme nombre de grands poètes, Shakespeare faisait débuter ses œuvres avant ou après leur véritable début. Si ce poème était une œuvre de réfutation, que réfutait-il ? Qu'est-ce que le jeune homme aurait pu dire au vieux poète énamouré qui nécessita une réfutation aussi véhémente ? Déployant ses doigts à partir de son manipulateur primaire, Manmuth attrapa son stylo et écrivit sur son ardoise. « Cher Will, certes, nous aimerions tous deux que l'union de nos nobles esprits, l'union sacrée des corps étant interdite aux hommes, soit aussi réelle, aussi permanente que le vrai mariage. Mais cela ne peut être. Les gens changent, Will. Les circonstances changent. Lorsque fuient les qualités des gens ou les gens eux-mêmes, leur amour en fait autant. Je t'ai aimé, Will. En vérité, je t'ai aimé. Mais tu as changé. Tu t'es altéré. Et il est venu un changement en moi et une altération en notre amour. bien sincèrement à toi, le jeune. » Manmut relut la lettre et éclata de rire. Mais son rire cessa lorsqu'il comprit à quel point le sens du sonnet 116 en était changé. D'affirmation larmoyante d'un amour inaltérable, le sonnet se transformait en une violente réfutation du caprice du jeune, en attaque dirigée contre l'égoïsme de son attitude. Car le sonnet pouvait désormais se lire ainsi. « Je ne veux point de prétendu obstacle à l'union suprême de deux nobles esprits. L'amour n'est pas l'amour qui change s'il rencontre un changement de lui-même ou, s'il se voit quitter, veut quitter à son tour. Non !» Manmut ne se contenait qu'à grand-peine. Le sonnet 116, voire l'intégralité du cycle, lui apparaissait sous un nouveau jour. Il ne restait rien de l'amour du type union suprême de deux nobles esprits, rien que de la colère, des accusations, des récriminations, des mensonges, de nouvelles infidélités. En attendant la fin de l'histoire, annoncée dans le sonnet 126, en fait un douzain, à partir duquel le jeune homme et l'amour idéal étaient abandonnés en faveur des plaisirs charnels de la dame noire. Manmut fit basculer sa conscience dans le virtuel et prépara un courrier électronique à l'intention d'Orphu Dio, son fidèle interlocuteur des 12 dernières années T. Il y eut un coup de corne. Des voyants s'allumèrent dans le virtuel.
« Le Kraken !»
s'alarma Manmut. Mais jamais un Kraken ne se serait approché de la surface, n'aurait nagé dans un chenal. Il stocka le sonnet et ses notes, effaça le message en préparation et ouvrit ses capteurs externes. La Dame Noire se trouvait à 5 km de centrale, dans un secteur soumis au contrôle direct des docks. Manmut passa les commandes de son submersible à centrale et scruta les falaises de glace devant lui. Vu de l'extérieur, Connemara Central ne se distinguait en rien du reste de la surface d'Europe. Un chaos de crêtes et de plissements, projetant des falaises de glace sur 200 ou 300 mètres de haut, le tout bloquant le dédale de chenaux et de lenticelles noires. Puis, les signes d'habitation devenaient visibles. La gueule noire des installations portuaires, les ascenseurs sur la falaise, les fenêtres creusées dans la glace, les balises de navigation palpitant et clignotant sur les modules de surface, les cellules habitables et les antennes, et, tout là-haut, là où le rebord de la falaise se découpait sur le fond de ciel noir, les navettes interlunaires solidement arrimées à la plateforme d'atterrissage. Des vaisseaux spatiaux à centrale. Voilà qui était inhabituel. Alors même que Manmut achevait de s'amarrer, plaçait les fonctions de son submersible en stand-by et commençait à se dissocier de ses systèmes, il se demandait « Pourquoi diable m'ont-ils convoqué ici ?» Une fois conclu l'amarrage, il entama le processus traumatisant consistant à circonscrire ses sens et son autonomie aux limites incommodes de son corps plus ou moins humanoïde et quitta le submersible, pénétrant dans un domaine glacial illuminé de bleu et empruntant un ascenseur à grande vitesse pour gagner les cellules habitables tout là-haut.